Père, nous voulons te remercier ce matin pour le temps que tu nous donnes, alors que nous voulons regarder le livre de ta parole. Nous nous réjouissons à l'avance du privilège de pouvoir l'étudier. Et nous réjouissons également de savoir que tu vas nous enrichir, tu vas enrichir nos cœurs, tu vas enrichir nos vies, et que tu vas édifier, Seigneur, à chacune de nos vies afin que nous puissions la recevoir, pas simplement avec joie, mais dans l'objectif de porter du fruit. Et nous prions tout cela dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors nous poursuivons ce matin notre réflexion sur le thème de l'évangélisation et sur le thème du témoignage. Nous avons vu dans les dernières semaines divers aspects, nous avons vu divers éléments, diverses exhortations au sujet de cet appel que le Seigneur nous fait de témoigner et de parler de lui. Nous avons parlé du fondement de l'Évangile comme étant la source, comme étant l'objectif, la substance et la motivation de la vie chrétienne. Nous avons parlé de la prière, nous avons parlé des traits de caractère nécessaires pour une évangélisation constante, une obéissance constante à ce commandement. Et ce matin, nous toucherons à nouveau la plupart de ces points, mais je l'espère sous un angle différent, une autre perspective, si je peux dire. Et la perspective que nous regarderons ce matin, c'est celle de l'Église, du livre des Actes. Nous en ferons un bref survol. Et en effet, cette Église du livre des Actes a beaucoup, beaucoup à nous enseigner au sujet de l'évangélisation. Nous voyons clairement, en examinant ce livre, que cette Église, en plus d'une vitalité exceptionnelle, a connu une croissance phénoménale, une croissance incroyable. Regardez par exemple dans Actes, le chapitre 2 au verset 14, il nous est dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. » En une prédication. Ou plus loin dans le chapitre 4 au verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le nombre des hommes s'éleva à 5000 en excluant les femmes et les enfants. Et alors cela nous donne une idée de la taille de l'Église en quelques semaines. Ou plus loin encore dans Actes, le chapitre 5 au verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Chapitre 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marcha dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Chapitre 11, verset 21, « La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Cette Église, non seulement s'accroissait à un rythme exceptionnel, mais il y avait une surmultiplication dans un laps de quelques semaines, de quelques mois, le tout par une exceptionnelle évangélisation, un puissant témoignage. L'Église était effectivement des témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Galilée et dans toute la Samarie. Et pourtant, ce n'est pas qu'il s'agissait que ce soit facile de se convertir. Ce n'est pas qu'il était facile de devenir chrétien. Il ne s'agissait pas juste d'un assentiment intellectuel à un nouveau courant de pensée, à une nouvelle philosophie. Le prix à payer était élevé, il était immédiat. Il nous sert simplement de nous rappeler d'Étienne, de nous rappeler de Jacques, de nous rappeler de l'apôtre Paul, de nous rappeler de Pierre et de Jean. L'engagement qui était demandé était constant. Et pourtant, des centaines, des milliers de gens s'asseyaient, comptaient le prix à payer pour suivre Jésus et décidaient de payer ce prix. Pourquoi? Et nulle part dans le livre des Actes, nous ne voyons le Saint-Esprit s'excuser de la croissance phénoménale de l'Église. La croissance de l'Église à travers une évangélisation authentique produit effectivement une croissance authentique. Et par ricochet, le danger pour nous, le danger qui nous guette ce matin, c'est de dire, mais nous sommes une petite église. En impliquant par là que nous devons nous satisfaire du nombre que nous sommes, nous devons nous satisfaire de venir le dimanche, de nous asseoir, d'écouter la parole, de nous réjouir de la communion que nous avons les uns avec les autres, et que notre appel s'arrête là. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous apprenons a un seul but. C'est celui de nous équiper, c'est celui de nous préparer afin d'être plus efficaces pour gagner d'autres personnes. Jésus a dit dans Jean le chapitre 20, « Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Dans Jean le chapitre 17, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Dans Marc le chapitre 16, « Allez par tout le monde, leur dit Jésus. » Dans Matthieu le chapitre 28, « Allez et faites. » Nulle part, Jésus ne nous ordonne, ne nous enseigne de nous asseoir et de contenter et de confortablement savourer notre salut. Mais comment donc cette réalité, cet appel était vécu dans l'église du livre des Actes? Qu'est-ce qui nourrissait? Qu'est-ce qui vitalisait? Qu'est-ce qui énergisait leur témoignage à tel point que le Saint-Esprit les utilise si puissamment? Ou en d'autres termes encore, comment le Saint-Esprit utilisait leur vie de piété, leurs attitudes et leurs actions pour toucher, pour convaincre et pour attirer à Christ des âmes perdues? L'apôtre Paul lui-même a dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ ». Et il nous serait certainement bien profitable ce matin d'examiner la vie de cette Église, car elle est, comme nous l'avons dit, un exemple exceptionnel d'obéissance, un exemple exceptionnel de puissance en ce qui concerne l'évangélisation. Et nous examinerons donc très brièvement ce matin quatre points, quatre angles. Et ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous enseigner, nous rappeler et nous vivifier ce commandement, cet appel à travers cette réflexion. Et la première caractéristique notable de l'Église du livre des Actes en lien avec l'évangélisation se trouve nettement en relief au chapitre 4. Au chapitre 4 du livre des Actes, brièvement, le contexte, c'est que Pierre et Jean viennent d'opérer un miracle, un signe miraculeux par le nom de Jésus, en ordonnant à un homme qui était infirme, à un homme qui ne pouvait marcher, qui était assis devant le temple, de se lever au nom de Jésus et de marcher. Et une foule de gens avaient effectivement vu ce miracle-là. C'était un lieu public, c'était la porte du temple et il y avait un va-et-vient constant. Et ce miracle au nom de Jésus et l'enseignement des apôtres avait créé un tel émoi, avait créé une telle agitation que les chefs religieux ont fait arrêter l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean et ils les ont jetés en prison. Puis le lendemain, ils les font comparaître devant eux. Et ce qu'ils leur disent au verset 18 du chapitre 4, c'est ceci. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Sautant au verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, Pierre et Jean, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avait dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et les vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant la main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Leur prière est absolument incroyable. Remarquez, c'est après qu'ils aient été arrêtés, après qu'on leur ait interdit de ne plus parler de Jésus, leur prière n'a pas été pour la protection. Ils n'ont pas prié pour être délivrés de la main des chefs religieux et des anciens. Ils n'ont pas prié pour être gardés de l'épreuve. Regardez leur prière. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Leur prière, leur vie de prière était centrée. Elle avait un seul objectif, c'est celui d'avoir l'assurance de pouvoir proclamer le nom du Seigneur avec assurance.
Et notez également la nature de l'assentiment total, l'unité complète dans leur prière. Verset 24 nous dit « Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils, étant toute l'Église, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. » Ils n'ont pas prié pour que les apôtres, pour que les diacres soient affermis dans le témoignage. Ils ont prié pour que tous, chaque membre, chaque individu de l'Église annonce l'Évangile avec une pleine assurance.
La caractéristique de l'Église du livre des Actes, c'est qu'il priait constamment, il priait avec ferveur pour avoir un témoignage qui sorte avec assurance.
Et la réponse ne se fait pas attendre, elle est quasi instantanée. Verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés
trembla. Ils furent remplis du Saint-Esprit
et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Un témoignage et une évangélisation explosive passe par une vie de prière où l'objectif immédiat et l'objectif ultime, où l'objectif à court terme et l'objectif à long terme reste le même, celui de la proclamation du message de l'Évangile. La réponse du ciel à une prière qui demande de l'assurance pour parler au nom de Jésus n'est jamais négative.
Si Jésus lui-même, si le bon berger a laissé 99 des brebis qui n'étaient pas perdues pour aller chercher la seule brebis qui était perdue, à combien plus forte raison accompagnera-t-il et donnera-t-il de l'assurance à ceux qui veulent faire de même?
Et nous retrouvons à nouveau la même attitude dans tout le reste du livre. Au chapitre 9, verset 41, il nous est dit « Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. » Conclusion, un peu plus loin, cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Chapitre 13, après avoir jeûné et prié, verset 12, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Chapitre 16, verset 1, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Verset 34, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu.
J'ai compté près de 28 occurrences de prière dans le livre des Actes. Et à chaque événement majeur, à chaque chamboulement surnaturel que nous y lisons, la prière n'est jamais bien loin. Sans prière pour l'assurance de témoigner, sans prière pour un désir constant de parler du Seigneur, notre témoignage est tout aussi efficace
que d'essayer de transformer un désert en jardin en l'arrosant avec un seau d'eau à la fois. Mais le Seigneur est celui qui est capable d'envoyer la pluie nécessaire du ciel pour transformer des cœurs de pierre en un cœur de chair. Regardez ce qu'il dit lui-même dans Ésaïe, le chapitre 43, au verset 14. « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas?
Je ferai un chemin dans le désert et des rivières dans les lieux arides. » Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Il n'y a que lui qui est capable de produire
un effet, de produire des conversions, de produire une puissance transformatrice lorsque nous témoignons.
Et il le fait lorsque nous sommes à genoux.
Il le fait lorsque nous prions. Philippe,
notre pasteur, a l'habitude de dire que lorsque nous travaillons, mais lorsque nous prions, Dieu travaille.
Et nous voyons clairement cette attitude-là dans la vie de l'Église du livre des Actes. Et le deuxième point qui est un corollaire direct du point précédent, celui d'une prière constante,
est celle du jeûne.
Du jeûne.
Il est effectivement possible de prier, et tout à fait louable et normal de prier sans jeûner,
mais il est impossible de jeûner bibliquement sans prier. Le jeûne, en fait, est l'affirmation d'une prière intense, d'une prière si intense, d'un désir si intense de trouver et d'être en accord avec la volonté divine, que les besoins du corps sont relégués temporairement à un second plan. Et l'Église du livre des Actes a à nouveau certainement de quoi nous enseigner à ce sujet. Tournez avec moi dans Actes le chapitre 13. Dans Actes le chapitre 13 au verset 1, nous lisons « Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Pourquoi jeûnaient-ils? Le verset 1 nous donne une bonne indication. Il nous est dit dans ce verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Puis on pourrait se demander, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le lien avec le jeûne et puis la prière? Vous vous souvenez de notre récente étude que nous avons faite sur les dons spirituels? Si vous regardez dans 1 Corinthiens le chapitre 14, nous voyons l'objectif et l'utilité du don de la prophétie. Il nous est dit, si donc dans une assemblée de l'Église, tous parlent en langue et qu'ils entrent de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tomba sur sa face, il adore Dieu et il publie que Dieu est réellement au milieu de vous. Pourquoi jeûnaient-ils donc? Ils jeûnaient parce que leur préoccupation était centrée sur la mission. Avec les dons de prophétie, avec tous les prophètes qu'ils avaient, ils se posaient la question, Seigneur, que devons-nous faire? Devons-nous ouvrir une nouvelle église fille? Devons-nous dépêcher des missionnaires dans une région où on ne connaît pas le Seigneur? Laquelle? Qui devons-nous envoyer? Barnabas? Devons-nous envoyer Siméon, Paul, Lucius? Devons-nous en envoyer 2, 3 ou 4? Où devrions-nous les envoyer? À quelle région devrions-nous les envoyer? Devrions-nous nous associer à d'autres églises pour cela? Devrions-nous les soutenir financièrement ou devront-ils travailler de leurs propres mains? Le fardeau de la mission, le fardeau de pouvoir utiliser les dons que le Seigneur leur avait donnés était tellement grand que toute l'Église jeûnait et priait pour une direction. Ils ne jeûnaient pas pour être préservés de la persécution. Ils ne jeûnaient même pas pour la famine. Il y avait une grosse famine, il nous est dit un peu plus haut, qu'il y avait une famine dans toute la Judée. Ils ne jeûnaient pas, ils ne priaient même pas pour toute la famine qui était en cours au sud d'Antioche. Non, ils jeûnaient et ils priaient pour une direction dans l'évangélisation. Le jeûne est l'expression d'une lourde préoccupation, d'un fardeau important. Et le fardeau de l'Église du livre des Actes, c'est l'utilisation des dons du Saint-Esprit dans un seul objectif, la proclamation de l'Évangile. Et l'application pour nous est tout aussi directe. Quelles sont nos préoccupations? Quelles sont nos préoccupations à l'Église des Nations? Quels sont nos fardeaux en lien avec les dons que le Seigneur nous a si généreusement donnés? Quels sont nos fardeaux en lien avec nos dons, mais également en lien avec sa mission, où il manque cruellement d'ouvriers? Et la deuxième expression du jeûne se trouve plus dans une dimension personnelle et non corporative. Et l'apôtre Paul en est un exemple saisissant. Voici ce qu'il dit dans 2 Corinthiens le chapitre 11. Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Il parle du fait d'être apôtre. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler des autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Car qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? On pourrait, à la lecture de cette portion de la défense de Paul de son ministère, manquer le véritable message, manquer en fait l'objectif de pourquoi est-ce qu'il nous parle de toutes ces difficultés, de toutes ces souffrances. Quand il nous parle au verset 20, quand il parle « J'ai été dans le travail et la peine, exposé à la faim, à la soif et à des jeûnes multipliés », pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça? C'est quoi l'objectif? Heureusement pour nous, il nous en donne la réponse lui-même un peu plus loin, au verset 10, du chapitre suivant. Voici ce qu'il dit. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions et dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce que Paul dit, c'est que sa puissance se trouve dans sa faiblesse. La puissance d'avoir un impact dans le témoignage se trouve dans la faiblesse. Et le jeûne, parmi tout ce qu'il a cité précédemment, c'est bien souvent une image bien perceptible de notre faiblesse, de notre dépendance à quelque chose d'extérieur, à quelque chose qui est à l'extérieur de nous-mêmes. Nous savons que comme humains, nous avons besoin de la nourriture pour survivre. Nous avons besoin de quelque chose d'extérieur à nous pour survivre, pour vivre. Et ce que Paul dit, c'est que dans le jeûne, dans la nudité, dans la faim et dans la soif, il s'est rendu compte en fait que c'est là où il était fort. C'est un encouragement encore une fois à considérer le message de l'Évangile, à considérer le besoin de l'évangélisation, à considérer l'ensemble de tous ceux qui se perdent sans connaître le Seigneur comme étant la priorité ultime du croyant. Il n'y a pas de priorité plus grande que celle-là.
Et l'Église du livre des Actes était puissante parce qu'elle avait compris cela, et non seulement parce qu'elle l'avait compris, mais parce qu'elle l'appliquait constamment. Au troisième point, à la discipline donc de la prière et du jeûne, s'ajoutait celle d'une étude et d'une familiarité profonde avec les Écritures. Examiner la proclamation des Écritures par les disciples dans le livre des Actes, c'est tout à fait incroyable. Ils ne sortaient pas leur Bible, ou mieux leur iPhone, à chaque fois qu'ils avaient besoin de témoigner. À chaque fois que l'occasion de témoigner apparaissait, ils ne sortaient pas des manuscrits. Et même il est plausible que plusieurs d'entre eux ne savaient même pas lire. Ils ne savaient même pas écrire. D'ailleurs, les chefs religieux ont dit de Pierre et de Jean, lorsqu'ils ont vu leur assurance, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Mais ils étaient tellement remplis des Écritures que lorsque le moment était venu de parler, c'est ce qui sortait. Regardez quelques exemples. Étienne. Dans son témoignage au chapitre 7, verset 28, voici ce qu'il dit. Alors, c'est Étienne qui parle, alors Dieu se détourna, il les livra au culte de l'armée du ciel, selon ce qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des sacrifices et des victimes pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? M'avez-vous porté? Non, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Rempha. Ces images que vous avez faites pour les adorer, aussi vous transporterez au-delà de Babylone. Il cite mot pour mot le prophète Ésaïe. Verset 48, à nouveau encore, c'est Étienne toujours qui parle, « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de la main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos, n'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses ?» Il cite encore une fois le livre des psaumes. Acte le chapitre 15, le verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et cela s'accorde avec les paroles des prophètes selon ce qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente d'Israël. J'en réparerai les ruines, je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues dans toute l'éternité. » Mot pour mot, à nouveau, Jacques est en train de citer encore un passage du prophète Habacuc. Vous savez, notre parole à chacun d'entre nous est aussi efficace que la hauteur de nos capacités intellectuelles. Mais la parole de Dieu est infiniment puissante. C'est l'épée qui tranche mieux qu'une épée qui tranche des deux côtés, nous dit la parole. Elle est capable de séparer la jointure de la moelle. D'ailleurs, le mot prédication, kérigma, en grec, dans le livre des Actes, signifie littéralement proclamation. Comment pouvons-nous espérer avoir un quelconque impact dans notre témoignage sans une saturation de la parole, qui, elle, a le pouvoir de transformer les gens? Les disciples n'ont pas acquis une assurance de nulle part. Ils ont acquis une assurance qui est ancrée. Une assurance qui est solidement ancrée dans la parole de Dieu et qui est énergisée par le Saint-Esprit le moment venu. John Stott a dit, il manque beaucoup d'évangiles dans l'évangile qu'annoncent beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous annonçons un évangile dans lequel il n'y a pas l'ensemble de la parole de Dieu, où nous essayons d'ajuster le message, où nous en enlevons le contenu, où nous l'adaptons d'une manière qui ne glorifie pas Dieu. J'ai lu plusieurs livres dans lesquels
les approches qui sont proposées, qui sont enseignées par les gens par rapport à l'évangélisation excluent entièrement la question de l'enfer. On en parlera plus tard, tant qu'ils seront croyants. Mais non, ce n'est pas ce que faisait l'Église du livre des Actes. Ils connaissaient la parole, ils en étaient imprimés, ils en étaient tellement remplis que c'est ce qui sortait mot pour mot lorsque le moment était venu de témoigner. Le témoignage de l'Église du livre des Actes n'était pas une savante concoction d'arguments humains, mais une affirmation des paroles des Saintes Écritures. L'apôtre Paul a écrit aux Romains, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » Pourquoi est-ce que je n'ai point honte? Parce qu'il ne vient pas de moi, ce n'est pas mon Évangile. Ce n'est pas quelque chose qui sort de mon cerveau. Je n'ai point honte de l'Évangile parce que c'est une puissance, dunamis, dynamite. C'est une puissance de Dieu. La parole de Dieu est tout, et toute la parole de Dieu est utile pour le salut. Voulons-nous avoir le même impact? Voulons-nous ressembler à cette église du livre des Actes? Il nous montre le chemin. Nous devons être remplis de la parole de Dieu. Notre troisième point, c'est celui d'une caractéristique que l'on voit tout au long dans l'église du livre des Actes en lien avec l'évangélisation. Nous avons vu la prière, nous avons parlé du jeûne, nous avons parlé de la plénitude de la parole. Mais celle-ci, c'est celle du service.
Celle du service.
Ou du ministère. Et nous voyons cela tout au long du livre. Au chapitre 4, par exemple, il nous est dit, ils mettaient tout en commun, leurs biens, de telle sorte que personne ne manquait de rien. Chapitre 6, ils choisissent des hommes pour servir aux tables et pour gérer la distribution de la nourriture, afin de permettre aux apôtres de pouvoir continuer à se consacrer à la prière et à la prédication. Chapitre 9, Ananias, lorsque Paul se convertit, l'accueille chez lui et il pourvoit à tous ses besoins. Chapitre 10, Dorcas, ou Tabitha, était reconnue dans tout Jopé pour les vêtements et les tuniques qu'elle cousait pour les veuves et pour les orphelins. Chapitre 10, l'apôtre Pierre est logé et nourri par Simon, le corroyeur. Et c'est là où l'apôtre Pierre reçoit une vision extraordinaire du plan de Dieu pour les païens. Chapitre 19, Lydie accueille Luc et Paul dans sa maison et ils pourvoient à leurs besoins, etc., etc. Il y a des dizaines d'autres occurrences de service dans le livre des Actes. Le livre des Actes est un livre de service, c'est un livre de ministère. Et pourquoi? Le service est intimement lié à la mission en ce qu'il est l'expression visible du désir pressant de chaque croyant de contribuer d'une manière quelconque à la progression de l'Évangile et à la proclamation du salut. Nous servons, et les chrétiens de l'église du livre des Actes servaient parce qu'ils étaient pressés, ils se sentaient pressés, poussés, contraints de faire quoi que ce soit, de faire tout ce qu'ils pouvaient faire pour que le royaume de Christ puisse progresser. Et si nous ne servons pas ce matin, si servir dans l'église, si servir autour de nous, si servir dans notre communauté n'est pas un besoin que nous jugeons pressant, il est impossible que notre témoignage ait un quelconque impact. Mais au-delà de tous ces points, et nous arrivons à notre dernier point, nous allons nous arrêter là, il y a une constante. Au-delà de la prière, au-delà de la du jeûne, au-delà de la parole de Dieu, au-delà du service, il y a une constance. Une constance qui ressort du livre des Actes en ce qui a trait avec l'évangélisation. L'apôtre Paul a écrit à Timothée, c'est mon, il a écrit « Prêche la parole ».
Insiste en toute occasion.
Favorable ou non.
Et c'était littéralement
le modèle des croyants du livre des Actes. Littéralement le moins, leur modèle de vie.
Toutes les occasions étaient bonnes pour parler du Seigneur.
Acte le chapitre 7, le verset 54, c'est Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il ouvrit la bouche et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Chapitre 8, verset 5, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Chapitre 8, verset 25, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Chapitre 10, verset 34, alors Pierre ouvrant la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Acte chapitre 11, verset 25, Barnabas se rendit à Tarse pour chercher Paul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église, et ils témoignèrent à beaucoup de personnes. Acte le chapitre 13, le verset 24, Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient Jean qui les aidait. Acte le chapitre 14, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche, en annonçant l'évangile et en fortifiant l'esprit des disciples, en les exhortant et à persévérer dans la foi. Étienne, Pierre, Jean, Philippe, Paul, Silas, Barnabas. En fait, nous serions pris à relire tout le livre des Actes si nous voulions aller à la recherche des occurrences de témoignages dans le livre des Actes. L'église du livre des Actes évangélisait parce qu'elle était constamment en train de témoigner et elle témoignait parce qu'elle était constamment en train d'évangéliser. Toutes les occasions étaient bonnes, qu'ils soient en chemin, qu'ils soient en voyage, qu'ils soient en ville, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient dans un temple, qu'ils soient dans une ville. Ils étaient constamment en train de saisir toutes les occasions que Dieu leur donnait pour témoigner. Et l'un des plus gros mensonges, l'un des mensonges les plus efficaces de Satan aujourd'hui, c'est de nous faire croire que l'efficacité de notre témoignage et de notre évangélisation dépend de la qualité de notre message. Elle dépend de sa profondeur, de sa capacité persuasive. En d'autres termes, tu commenceras à témoigner quand tu seras prêt. Tu commenceras à témoigner quand les astres seront alignés. Et cette notion de devoir être prêt pour témoigner est complètement inconnue du livre de l'Église, du livre des Actes. La définition même du croyant implique qu'il témoigne. C'est un témoin. C'est un témoin du Christ qu'il indique suivre. Et plutôt donc que de nous donner une hardiesse à parler, ce sentiment d'inadéquation nous pousse plutôt au silence, nous pousse à la honte, plutôt qu'à l'assurance et au courage que cette Église avait de témoigner. Nous allons nous arrêter là. Le livre des Actes est rempli d'une mine. C'est une mine d'insight, une mine d'exemples éminemment pratiques. J'ai relu le livre dans son entier ces derniers jours, puis j'ai été tellement encouragé de voir que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est à l'œuvre lorsque nous sommes à genoux, lorsque nous sommes versés dans l'étude de la parole, lorsque nous servons, mais surtout lorsque nous témoignons. L'Esprit qui était à l'œuvre dans l'Église du livre des Actes, c'est le même qui œuvre en nous aujourd'hui. Soyons donc effectivement encouragés, soyons vivifiés et soyons poussés à l'action.